Le grand témoin.
Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Grand Témoin. Un grand témoin qui a le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui le professeur Okondaoka Oneponga José. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom, professeur.
Très bien.
Vous êtes professeur d'université, toxicologue, fondateur et recteur de l'université Laurent-Désiré Kabila Lomela. Lomela, nous sommes là dans le Kassai oriental.
Exact.
C'est la seule université qui existe dans ce coin.
Exact.
On va parler de cette université, mais aussi nous parlerons des fonctions que vous avez occupées bien avant cela. Vous avez travaillé au sein du ministère de la Santé, vous êtes toxicologue, vous travaillez aussi dans le domaine de l'environnement.
Exact.
Alors tout ceci, on va en parler dans cette émission, mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance, professeur. Vous êtes né un certain 23 avril 1948.
Exactement, madame.
À Lomela.
À Lomela.
Au Kassai oriental.
Kassai oriental.
Et c'est là où vous avez grandi?
Je suis né chez moi, bien entendu, à Tula Otenga, c'est le village. Ensuite, j'ai évolué comme je devais étudier. J'ai commencé par chez moi, ensuite à Kananga, puis Kananga, Kinshasa, Kinshasa, Europe.
Donc, école primaire à Lomela, chez vous?
À Lomela, voilà.
Secondaire à Kananga?
À Kananga, oui. Et puis, université à Kinshasa.
À Kinshasa. Vous avez grandi dans quelles conditions?
D'abord, mon père, c'était un tailleur, un couturier, donc un simple villageois qui, avec ses moyens, ses économies, a permis que nous puissions étudier. Je crois que je ne me suis pas plaint en tant qu'enfant d'un couturier.
Vous aviez le minimum.
J'avais le minimum. En plus de ça, j'avais un grand frère qui est encore en vie, du reste, qui travaillait aussi et a aussi contribué pour mes études.
Quels souvenirs vous gardez de cette enfance?
De l'enfance. Bon, je suis le dernier de ma mère, et donc j'étais un enfant gâté, mais au lieu de traîner à la maison, j'ai eu le courage, encouragé par ma mère, pour faire des études. Et j'étais considéré comme le Benjamin, donc un enfant qui était aimé par ses frères et sœurs et par les parents.
Vous avez été encouragé par votre mère à faire des études, parce que les jeunes dans votre village ne voulaient pas étudier.
Il faut dire que dans mon village, c'est un grand village de 25 km de part et d'autre. Je peux me considérer comme parmi les premières générations de mon village à avoir beaucoup étudié. Et comme Benjamin de ma mère, je crois que je devais être freiné de ce côté-là. Mais au contraire, ma mère a voulu, et mon père, ils ont voulu que vraiment j'étudie.
Mais vous étiez quel genre d'enfant?
Un peu capricieux, un peu bagarreur. Mais j'ai arrêté.
Alors, professeur Okondaoka Oneponga, votre nom a une signification particulière?
Okonda signifie dans ma langue forêt. Aoka, c'est le nom de mon père qui signifie guerrier. Et Oneponga, c'est ça aussi une signification. Comme vous savez, chez les Batete, là, on mange beaucoup de riz. Oneponga, ça veut dire l'enfant de riz.
L'enfant de riz.
L'enfant de riz, voilà.
Parce que c'est l'aliment des bases, c'est les tétés là.
Non, c'est un grand-parent maternel qui portait ce nom, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, voilà.
Vous êtes marié, père de combien d'enfants?
Ah, je suis marié, père de 9 enfants. Mis derrière, vous croyez?
Non, mais je vous crois.
D'accord.
Pourquoi vous me posez cette question?
Vous avez l'air dubitatif.
Non, je vous crois, professeur.
D'accord. Père de 9 enfants.
J'en ai reçu qui ont 15 enfants.
Ah, vous avez 15 enfants?
Non, j'ai reçu des invités ici qui ont 15 enfants,
d'accord.
Donc ça ne m'étonne pas.
Il y en a 9.
Alors, professeur Okonda, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Et c'est connu de ma famille, de ma femme, de toute ma famille, ce que je n'aime pas, c'est les mensonges. Ça, je déteste. Je déteste la mort. Je peux accepter une fois, deux fois, à partir de la troisième fois. Là, vous devenez mon ennemi. Ça, je déteste, les mensonges.
C'est quoi votre plat préféré? Le riz.
Comment?
Sûrement. Votre plat préféré?
Mon plat préféré, bien sûr le riz, mais avec les pondou de paille-paille.
Comme ça se prépare chez vous, chez les tétés là.
Ça j'adore, c'est formidable.
Professeur, vous avez un diplôme d'état des humanités biochimie.
C'est ça, exact.
Pourquoi avoir choisi la biochimie?
Oh non, je suis arrivé comme ça parce que je voulais coûte que coûte devenir médecin. Et la biochimie, vous voyez, la biologie, j'ai beaucoup aimé, mais bon, faute de faire la médecine, j'ai fait la pharmacie.
Qu'est-ce que vous empêchez de faire?
C'était devenu encore une branche beaucoup plus compliquée. À l'époque, il fallait faire, beaucoup déjà essayé de faire la pharmacie, mais finalement, ils allaient ailleurs.
Mais qu'est-ce que vous empêchez de faire la médecine?
Oh, ce qui m'a empêché, c'est que En définitive, j'ai compris que j'aimais beaucoup les calculs, j'aimais beaucoup les un peu plus de précision dans les travaux que je faisais. Et de pas à l'origine, maman me disait que j'avais un ancêtre qui ne traitait pas des plantes, donc qui était comme un féticheur avec des plantes. C'est pour ça que j'ai dit non, pour plantes, c'est-à-dire il faut prendre, il faut traiter, il faut préparer des, il faut préparer un produit, un médicament. Et c'est ça qui m'a beaucoup attiré.
Alors vous dites que la pharmacie, c'était pas facile.
C'était pas facile parce que les matières qu'on y enseigne ne sont pas des matières si faciles.
Pourquoi calculs, beaucoup là, d'étudiants fuyaient cette faculté?
Beaucoup, et ils y allaient, mais la réussite n'était pas certaine.
Donc en 1975, vous avez un diplôme de pharmacien de l'université de Kinshasa, Lubayom, voilà. À l'époque. En 1983, vous avez un diplôme de docteur en sciences pharmaceutiques, en sciences toxicologie, à l'université René Descartes, Paris 5, avec la mention très bien.
Très bien, voilà.
Toxicologie, pourquoi cette branche?
Quand on avait terminé, en 1975, j'ai été réquisitionné parmi tant d'autres pour travailler à la présidence de la République, dans le cadre de la mission médicale de la présidence, à l'époque de Mobutu, au temps des Zaïre. Et j'ai été envoyé à Guadolité. J'ai vu Guadolité pousser à mes yeux. J'y ai travaillé pendant 2 ans. Alors un matin, pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai vu arriver une dame qui venait par mégarde ou bien par esprit de suicide volontaire, venait de prendre la poussière de DDT. DDT, c'est un insecticide. Et on l'a amenée à l'hôpital, elle était dans un état un peu désespéré. Et le médecin et tout le monde étaient incapables de lui venir en aide. Et cette idée, ça m'a fait rappeler les cours de toxicologie que j'ai vus dans le cursus à l'université. Je me suis dit, tiens, mais c'est quelque chose, c'est un empoisonnement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauver quelqu'un. Parce qu'imaginez-vous, la toxicologie à l'époque, c'était une histoire de médecine légale. Il y a une autopsie à faire, on peut élever, on va analyser. Mais aujourd'hui, la toxicologie, c'est une médecine d'urgence. Alors, cette idée m'est venue, j'ai dit, tiens, moi je dois apprendre à sauver les gens. Et c'est comme ça que, finalement, j'obtiendrai l'invitation d'un professeur à Paris qui a accepté que j'aille à étudier la toxicologie à Paris.
C'est vous qui lui avez demandé
J'avais demandé parce que j'étais intéressé déjà. Et j'ai reçu une réponse favorable. Et c'est pour ça que je suis parti. Je suis parti à Paris. Et dans un premier temps, j'ai travaillé pendant une année et demie dans un centre anti-poison. J'ai vu des
cas. Paris.
À Paris. Comme stagiaire. J'ai vu des cas. J'ai vu ce que c'est l'importance de la toxicologie. Et comment les gens étaient sauvés par les moyens qu'on y utilise. Et c'était très, très important.
Et vous vous êtes dit, je vais rentrer avec
cette idée au pays. Quelque chose pour aider dans mon pays.
Voilà. Exact. Après avoir obtenu ce diplôme de docteur en sciences pharmaceutiques, option de toxicologie, vous êtes revenu directement au pays?
Une chose, entre parenthèses, quand j'avais terminé, j'étais retenu pour aller travailler à Genève par mon professeur. Et pendant ce temps, il y a la RDC, le Zaïre à l'époque, avait besoin de quelqu'un pour travailler à l'OCC. Il y avait un problème d'avarie alimentaire. Et le jour de ma soutenance, c'était un ambassadeur de notre pays qui avait assisté à la présentation de ma thèse. Alors il a fait les rapports au pays et le pays m'a envoyé un mot pour que je puisse rentrer. Alors je devais faire le choix entre aller à Genève et venir au pays. J'ai choisi de venir au pays et j'étais engagé à l'OCC directement comme un fondé de pouvoir. Je suis arrivé, j'ai voyagé par bateau, arrivé à Matadi. L'OCC s'est occupé de moi jusqu'ici. Mais quand je devais me présenter à l'OCC, il y a eu, c'est pas ce qu'il y a eu, la politique s'est mêlée. On a dit non, mais le type il vient pour devenir PDG de l'OCC. Mais ce n'était pas ça.
Alors que c'est le pays que vous avez demandé de retirer, que vous avez sollicité.
2 mois après, mon professeur qui devait m'envoyer à Genève est décédé.
Oh là là.
C'est comme ça que je suis resté au pays. Immédiatement, quelques jours après, il y a l'INRB qui a commencé. Et le général Salin qui venait de Paris a été signalé qu'il y a quelqu'un qui venait de terminer à Paris qui est là. Il fallait le prendre à l'INRB. C'est comme ça que je suis allé à l'INRB.
Comme ça que vous avez commencé à travailler là-bas. J'avais
perdu l'enseignement en même temps.
Mais vous avez repris l'enseignement.
L'enseignement, c'est plus tard.
Plus tard.
Parce que quand on était à l'INRB, on était dans la filière de l'Institut Pasteur. Il n'y avait rien à envier avec l'enseignement. On avait la documentation. On voyageait à tout moment. On était vraiment bien.
Vous êtes resté à l'INRB.
Je suis resté à l'INRB depuis 1984 jusqu'à 2000.
Vous faisiez quoi concrètement?
Mon travail, d'abord, comme chercheur. J'étais engagé comme chercheur. On était avec des blancs à l'époque, des homologues. Et j'ai progressé. Ensuite, j'ai occupé les laboratoires. C'est moi qui ai monté les laboratoires de toxicologie, l'unique derrière, c'est pour jusqu'à aujourd'hui. Et je faisais des travaux en rapport avec la toxicologie. Essayer de certains médicaments, de certains produits sur les animaux. Je deviendrai par la suite directeur général adjoint à l'INRB. J'ai dû quitter pour des raisons...
Pour des raisons.
Voilà, pour des raisons.
Quelles raisons, professeur?
Pour des raisons.
Pour quelles raisons?
Ah ben, d'abord, je devais me consacrer à l'enseignement. Deuxièmement, il y a eu un problème politique.
Mais vous avez. Vous venez de nous dire que vous aviez perdu le goût de l'enseignement.
Oui, c'est-à-dire que dans l'entretemps, on s'était dit quand même que quand on a appris quelque chose, il faut transmettre. Uh-huh. Pendant que j'étais à l'INRB, je donnais sporadiquement des cours. Et c'est comme ça que, quand je suis parti de l'INRB, ça n'a pas été difficile pour moi d'intégrer l'enseignement.
Professeur, vous avez été aussi vice-président du comité national chargé de la recherche et de la coopération en matière des plantes médicinales.
Exact. Là,
c'est la médecine traditionnelle.
Ou la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, c'est quelque chose aujourd'hui qui est connu à travers le monde. L'OMS, d'ailleurs, encourage la médecine traditionnelle. L'OMS loue des fonds à des pays pour la promotion de la médecine traditionnelle. Et il se fait que l'État congolais, qui sait très bien que la médecine traditionnelle, à l'époque des Belges, on ne voulait pas de la médecine traditionnelle. Les gens qui pratiquaient la médecine traditionnelle étaient traqués et arrêtés. Mais dans l'entretemps, les mêmes colons
peut-être
exportaient
parce que ça n'inspirait pas confiance.
Attendez, mais les mêmes blancs qui disaient que les plantes, on ne pouvait pas utiliser les tradis praticiens, etc. Ils prenaient les mêmes plantes des tradis praticiens, ils exportaient. Mais on ne voulait pas que les tradis praticiens qui manipulaient ces plantes-là puissent traiter les autres. À l'avènement de l'indépendance, le gouvernement congolais, tout comme la plupart des gouvernements qui ont accédé à leur indépendance, ont vu qu'effectivement, même vous, madame, je ne sais pas où vous êtes née, mais en tout cas, on a dû prendre, nous autres ici, nous sommes nés de village, on a dû prendre certaines feuilles pour vous soigner, soit pour traiter la rougeole, soit pour traiter, etc., etc. Ce n'était pas des médicaments des blancs. Alors, c'est comme ça que, de plus en plus, les gouvernements du tiers-monde ont revalorisé la médecine traditionnelle aujourd'hui. C'est dans ce cadre-là que l'État congolais qui a accepté que la médecine traditionnelle existe, devait organiser la médecine traditionnelle. Et pour l'organisation de la médecine traditionnelle, il a créé d'abord cette structure. Malheureusement, cette structure, elle a été créée, mais on n'a pas doté cette structure des moyens appropriés pour pouvoir fonctionner. À travers cette structure, il y a eu un président, fait professeur Epeng, et le premier vice-président, c'était moi. Donc, cette structure n'a pas existé.
Elle a disparu.
Elle a disparu comme ça.
Sans
même commencer le travail. Et c'est comme ça que plusieurs textes ont vu le jour, jusqu'à la création aujourd'hui d'un programme qui s'occupe de la médecine traditionnelle au sein du ministère de la Santé publique.
Et vous avez été directeur de ce programme?
J'étais directeur de ce programme.
Jusqu'en 2010.
Jusqu'à 2010.
Est-ce que vous, personnellement, professeur...
De 2005 à 2010.
Vous encouragez, professeur, la médecine traditionnelle?
Madame, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. La médecine traditionnelle existe. Elle est vraie. Mais les problèmes aujourd'hui qui nous préoccupent, ce sont des charlatans. Les gens qui ne savent rien de la médecine traditionnelle, mais qui se mêlent dans la médecine traditionnelle pour gagner de l'argent. Ce ne sont pas des vrais tradis praticiens. Mais l'État a un rôle à jouer dans ce domaine-là. Débusquer tous ces gens-là et laisser les vrais tradis praticiens faire leur métier.
Comment les débusquer, comment les identifier?
Eh bien, il y a des techniques, l'État a suffisamment de moyens. D'abord, entre les tradis praticiens, ils se connaissent. Les vrais tradis praticiens se connaissent entre eux. Ils savent tel est tradis praticien, ils soignent telle maladie, tel autre non. Ça, c'est d'abord la première approche. Deuxièmement, il y a l'État qui doit faire le recensement. Il existe des associations de tradis praticiens et aidés par le programme, ils doivent conjuguer les efforts pour débusquer tous ces charlatans qui sont en train de, si vous voulez, de mettre les bateaux dans les roues. Et nous sommes en retard, nous, la RDC, par rapport à ces programmes. Il faut intégrer la médecine traditionnelle et les systèmes de santé. Beaucoup de pays, par exemple le Mali, le Sénégal, vous allez dans un hôpital, il y a un pavillon réservé pour la médecine traditionnelle, Si un médecin trouve que c'est un cas qui peut être pris en charge par la médecine traditionnelle, il le fait. Il n'y a pas de honte à ça. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est que on nous a inculqué une notion selon laquelle la médecine traditionnelle, c'est la sorcellerie, c'est. Alors les gens ont peur. Non, la médecine traditionnelle utilisait quoi? Les plantes, les animaux, les minéraux.
Et aussi, c'est un problème de dosage qui pousse quand même les
vous
gens
savez,
à poser des questions.
Vous savez, les dosages à leur manière, comme j'ai dit, les dosages à leur manière, c'est vrai, on peut révolutionner ça, il faut moderniser. Madame, nous devons franchement changer de mentalité. Nous devons reconnaître que la médecine traditionnelle, c'est une médecine comme toute autre.
Mais il faut mettre de l'ordre.
Il faut mettre de l'ordre. Voilà. Mm-hmm. C'est le rôle de l'État de mettre de l'ordre.
Et identifier les vrais des faux.
Exact. Exact.
Professeur Okonda Oka, vous avez été aussi point focal chargé de la création du centre anti-poison en RDC.
Exact.
Un centre qui n'a pas vu les jours, malheureusement.
J'ai été nommé par un arrêté ministériel. À l'époque, c'était professeur Bongeli. J'ai encore l'arrêté avec moi. J'ai demandé, créer un centre anti-poison, c'est énorme. Il faut beaucoup de moyens. Mais on commence toujours par les commencements. J'ai dit, mettez des moyens à notre disposition pour que nous puissions commencer, ne serait-ce que par ce qu'on appelle un centre d'information toxicologique. Ça sauve beaucoup de gens. Informer la population, madame, c'est vraiment, comme il y en a qui disent, vous le savez, mieux vaut prévenir que guérir. La prévention, ce n'est pas l'information. Et ce centre est nécessaire pour tout un pays qui se respecte. C'est très nécessaire. Et ça ne demande pas beaucoup de moyens. Il faut de la volonté du gouvernement. Il faut qu'il y ait déjà. Les gens, il y en a. Il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a déjà des volontaires qui veulent travailler pour sauver les autres. Hélas, cet arrêté m'a été notifié. Mais le travail n'a pas vu le jour parce que ça n'a pas suivi.
Encore un problème de moyens?
Je ne peux pas répondre à la place du gouvernement, mais j'ai été notifié. On devait mettre à ma disposition ce qu'il fallait pour commencer le travail.
Mais cela depuis, on n'en parle plus.
On n'en parle plus. Et je me demande même si les gens au cabinet savent, au ministère de la Santé, savent que j'ai un arrêté qui a fait de moi le point focal de la création de centre anti-poison.
Donc vous vouliez emmener en RDC l'expérience de la France.
L'expérience de la France, d'autres pays d'Afrique aussi, par exemple le Maroc, la Tunisie. Ce sont des pays qui se distinguent de par leur façon de travailler et de voir la chose un peu.
Centre anti-poison, mais les hôpitaux vont servir à quoi maintenant?
Eh bien les hôpitaux. Parce que dans un centre anti-poison, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez d'abord comme premier service les centres d'information toxicologique qui doit travailler 24 heures sur 24. Je donne un exemple. Vous avez un enfant à la maison qui a avalé du pétrole. Il y en a dans notre pays ici, j'entends toujours parler des gens. Ah, il faut donner de l'huile. Oh, il faut faire vomir. Alors, si quelqu'un ne sait pas, il va accélérer la mort de son enfant. Alors, il faut donner l'information à cette maman. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, on vous dit, ne faites rien, allez à un centre médical le plus proche, voir un médecin. Le médecin qui a dans ce cursus des enseignements sur les cas d'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le médecin doit savoir que quand on prend, par exemple, une substance volatile ou une substance mousseuse, il ne faut pas faire vomir. Les médecins, ils savent ça. Surtout les urgentistes, ils apprennent ça. C'est déjà quelque chose. Mais les toxicologues orientent. Ils disent, allez là-bas, faites ça. Même si les centres d'information, les centres anti-poison n'existent pas, mais au moins, l'enfant est pris en charge par les médecins compétents. Et c'est très important.
Et donc c'est vraiment important
d'avoir...
Vous
avez le premier service.
D'avoir ce centre.
Mmh. Deuxièmement, vous avez l'hospitalisation. Quelqu'un dans les centres anti-poison, on hospitalise les gens en urgence. Pour des soins appropriés. Vous avez par exemple des cas d'épuration extra-rénale, cas d'épuration, tout ça. On les prend en charge par le service d'hospitalisation, il faut le suivre, il faut un suivi. Vous avez en même temps un service de laboratoire. Parce qu'en même temps, il faut connaître la cinétique du produit. Est-ce que le produit est en train d'être éliminé ou pas? Et ça, c'est les laboratoires qui vont vous le dire. Vous avez un service d'animalerie. Le produit qui a été suffisamment bien étudié, n'est-ce pas? on doit encore, dans les centres anti-poison, réétudier le produit pour connaître ce qu'on peut appeler la DL50, la dose létale, c'est-à-dire la dose qui tue 50%, pour confirmer les données qui ont été à l'origine de la fabrication des médicaments par rapport à ce qui est arrivé. Donc, ce sont des études qui se font dans un contexte, dans un environnement bien approprié.
Donc, c'est vraiment important d'avoir ce centre, professeur.
Très, très, très important.
Alors, vos travaux...
Je suis malheureux pour ça, hein, parce que, bon, comme ça n'existe pas, je suis malheureux.
Approchez le ministère de la Santé.
Le ministère de la Santé n'est pas ignorant.
Professeur Okonda, vous ne travaillez pas seulement dans le domaine de la santé, vous êtes aussi dans l'environnement.
Exact. Je suis dans l'environnement comme expert. Ma thèse a porté sur ce qu'on appelle les substances polluantes toxiques. Et ces substances
toujours dans la toxicologie.
Dans la toxicologie. C'est pour cela. Toxicologie, si vous voulez, de l'environnement. Parce que la toxicologie, il y a deux aspects. Il y a l'exposition directe. C'est-à-dire le fait de prendre un produit, prenez un médicament, vous avalez, vous êtes candidat au suicide, vous trouvez la mort, par exemple, vous avez des manifestations. Ça, c'est ce qu'on appelle exposition directe. Mais il y a un autre aspect qui est encore davantage plus important, c'est l'exposition indirecte. C'est que le professeur, c'est lui-là qui voulait m'envoyer à Genève, le premier au monde a baptisé du nom d'écotoxicologie, c'est-à-dire la toxicologie de l'environnement. Ça veut dire, pour simplifier, c'est la toxicologie des relais. C'est-à-dire l'homme n'est pas en contact direct avec les poisons, mais il est par le biais de l'environnement. Et donc, c'est pour cela qu'il faut bien soigner son environnement. Si vous ne soignez pas votre environnement, on peut vous considérer comme n'étant pas civilisé. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que j'interviens pour dire quelles sont les substances qui polluent l'environnement. Et il faut faire attention avec ces substances.
Vous pouvez nous en citer
les pesticides. Vous savez que la plupart des personnes, surtout à l'Équateur, ont l'habitude de pêcher, attraper les poissons avec des produits chimiques. Ces produits chimiques s'appellent des pesticides, notamment les DDT. Il y a d'autres qui sont encore beaucoup plus dangereux, comme l'andrine. Ce sont des produits qui sont très, très, très nocifs vis-à-vis des poissons. Et qu'est-ce qui arrive? Je vous donne une histoire récente en Ouganda. Les gens sont allés pêcher avec un produit dans l'eau. Ils ont attrapé beaucoup de poissons. Et ils croyaient que le poison se trouvait dans la tête. Ils ont coupé les têtes des poissons. Ils ont mangé les poissons. 16 personnes, vous comprenez? 16 personnes sont décédées de suite de la consommation. C'est ça l'exemple de l'exposition indirecte. Ils n'ont pas été en contact avec le produit, mais du fait de manger un aliment pollué, et voilà. Et beaucoup de cas dans notre
on retrouve beaucoup de cas comme ça,
voilà,
professeur.
Beaucoup de cas.
On va souffler un peu, professeur, avant de parler de votre université. C'est une université qui existe depuis 2013, l'université Laurent-Désiré Kabila, Lomela, au Kasaï oriental.
Oui.
On va souffler un peu. Comment vous passez vos moments de détente?
Mes moments de détente, je les passe souvent avec des amis.
Autour d'un verre?
Un verre d'eau ne fait pas l'affaire. Mais moi, je préfère. J'aime bien la pêche. La pêche à la ligne.
Mm-hmm.
Ça, j'adore.
Alors là, vous faites ça en dehors de la ville, peut-être dans la périphérie.
Vers Maroukou. Mais maintenant, j'ai amené tous mes matériels de pêche à Lomela.
Okay.
Parce que nous avons notre rivière qui est poissonneuse. J'ai amené tout mon matériel là-bas.
Mais comment vous allez faire maintenant pour pêcher?
Je suis à Kinshasa pour un temps et puis je vais rentrer chez nous. Hein.
Alors, professeur, vous arrivez à écouter la musique?
La musique, oui, maintenant on est chrétien. Avant, comme je vous ai dit, l'histoire de Nico et consorts. Mais avant, j'étais fanatique aussi de Franco Luambo. Quand j'étais en Europe, je revenais en vacances ici régulièrement. Mais il faut dire que quand Luambo jouait, j'étais dehors jusqu'à l'aube. C'est pas pour boire, mais danser, ça voulait la
musique. Il vous a marqué par ses chansons.
Oui. Remarquez, les chansons des anciennes chansons étaient des chansons avec des enseignements. Aujourd'hui, j'ai difficile à suivre les orchestres d'aujourd'hui parce que je n'entends pas ce qu'ils disent. Peut-être les jeunes gens, ils imitent ça, mais moi, je n'arrive plus à imiter. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire là. Il faut que quelqu'un m'explique. Alors, c'est ça la différence.
On va vous faire plaisir avec une chanson de Franco.
C'est pour me rappeler.
Ça vous dérange?
Bon. Qu'est-ce que vous aimez, vous?
Attendez, c'est moi qui vous demande ce que vous aimez. Moi, j'écoute tout.
Ah, vous écoutez tout.
Alors, professeur, on va trouver une chanson de Franco. Puisque vous dites, dans les chansons de Franco, c'est des enseignements, des conseils
qu'on donne. Des enseignements, franchement. À part certaines blagues qu'il faisait, mais vraiment, pratiquement toutes les chansons avaient des enseignements à donner.
Alors, on va trouver un titre de Franco, pour votre plaisir et pour le plaisir de tous ces auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout en RDC, particulièrement à Lomé, là chez vous, au Kassai Oriental, et même ceux qui sont à l'étranger, grâce à notre site internet www.radiocapi.net. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Mobelia que nena foto yo, mobelia que nena foto oh, a que le coye cola oh, a que le quie si cae alisano, a que le motaco oh, oye niñe. Esika ya lisano moto nyoso asakanaka, esika ya mawa moto nyoso alelaka. Ngai na leli mobali akende motako oyo ninye nakuti na lopango bato bazali kolela. Ngai na bandi na ngai pe kolela, kolela na ngai mawa ya mobali, mawa na ngai ya sisteme ye, mawa na ngai ya fisto ye, akosonga sanga nini ye, akosonga mbula nini ye. Nana yo osali kotina, bongo papa osali kotina, na telefone osali kosolola, bote na fami osali kopesa, na lingi presence, na lingi presence ya bomoto na yo papa, oyo ninye. Boya makambo ezali minene, Franco abeleli na Amerika oh oh, Franco abeleli na Brussels oh oh, Franco abeleli na Paris eh, balobi makambo ezali minene, makambo ezali minene eh. Nasengi dodo nzela nga na bima, dodo andimeli nga na motema, nga na bimi mambo na butu, nakuti dodo na maboko ya manda na ngai, misozo ba esali te, makambo esali minene eh. Motema elinga ndenge nini eh. Makanisi eva na nenge nini ye, motema ebo ya nenge nini ye, molimo na tia yango wapi ye, dodo a decevoir na ye, alongo lingai nesika na lingaka ye, makambo ezali minene ye. Azala kana susi na motema mama, yango na koma komela mingi ye, yango na koma kwiti kwiti ye,
pona longola susi ya mobali oyo akoma na kamarade na ngai elusalae
makambo ezali binene
boya
makambo ezali binene
boya
makambo ezali binene
Franco
abeleli na Amerika oko
Franco
abeleli na Bruxelles oko
Franco
abeleli na Paris
balobi
makambo ezali binene makambo ezali binene
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous présente aujourd'hui le professeur Okonda Oka Oneponga José. Il est professeur d'université, toxicologue, fondateur et recteur de l'université Laurent-Désiré Kabila, ULDK en sigle Lomela. C'est une université qui se trouve à Lomela, dans le territoire de Lomela. Nous sommes là au Kassai Oriental. Professeur, on va parler de cette université qui a vu le jour en 2013.
Exact, madame.
Alors, c'est quoi qui vous a motivé à mettre en place une université à Lomela chez vous?
Merci, madame, pour la question. Il faut dire tout de suite que je n'ai jamais pensé à créer une université. Je suis professeur, je suis visiteur dans plusieurs universités du pays, sans parler de l'extérieur. Mais c'est à l'occasion de ma tournée en 2013... que je me suis retrouvé dans mon district au Sankoro. D'abord, j'étais à Tchoumbé. À Tchoumbé, vous savez qu'en 2011, il y a eu des élections. Ces élections ont eu comme point négatif et surtout la mésentente entre les habitants d'un coin à cause de la politique. Et je me suis retrouvé à Tchoumbé à plus ou moins 400 kilomètres de Lomela. J'ai trouvé des enfants de Lomela là-bas à Tchoumbé. Mon désir était de les rassembler, de les organiser. Je les ai fait venir. Ensuite, je leur ai proposé vraiment de créer une petite structure pour qu'ils puissent chaque fois se rencontrer et faire des petites cotisations pour leur mutualité. J'ai ouvert une petite caisse pour eux et je croyais que j'avais bien fait de réunir les enfants de l'homme qui se trouvaient loin de leur site, de leur territoire. La même chose, je suis allé à Emonyama, j'ai fait la même chose, et je suis descendu à Lodja. Et à Lodja, j'ai tenu la même réunion, mais à la fin de la réunion, il y a un étudiant qui a levé la main pour me dire, « Monsieur le professeur, nous par moment ici, nous nous trouvons à Lodja, nous nous trouvons à Lodja, nous disons que nous n'avons peut-être pas des nôtres qui sont professeurs. Mais vous voilà, vous êtes là, et vous nous voyez souffrir ici à Lodja. Les étudiants ici à Lodja de Lomela constituent à peu près les trois quarts des étudiants de l'ensemble de Lodja. Mais vous allez ailleurs, vous nous abandonnez comme ça, pourquoi? Nous voulons qu'aujourd'hui vous puissiez ouvrir une université pour nous à Lomela. Franchement,
ça vous a fait réfléchir.
Ça m'a fait réfléchir. J'ai eu comme des écailles qui sont tombées de mes yeux. Je dis, tiens, au fait, ils ont raison. Ils ont raison, mais c'est une chose à laquelle je n'ai jamais pensé. Finalement, je leur ai dit, très bien, je prends acte de votre désir, mais laissez-moi un peu le temps de réfléchir, parce qu'il faut un projet, il faut réfléchir. D'abord, sur les sites, où est-ce que nous allons placer l'université? Il faut d'abord préparer les projets de faisabilité, études de faisabilité. Deuxièmement, il faut sensibiliser les gens. Et troisièmement, il faut trouver les noms. Alors, si vous, entre l'entre-vous, répond à ces quelques préoccupations. Nous allons échanger quand je vais retourner à Kinshasa. Et puis nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce qu'il faut faire quelque chose de bien mûri et pour le bien de chez nous. Je suis rentré à Kinshasa. J'ai fait le rassemblement des gens de chez nous. Ils sont venus. À l'occasion même, ils m'ont porté à la tête de cette association. Je leur ai parlé du projet de l'université chez nous. Mais malheureusement, ils m'ont laissé faire seul. Bon, je dis bon, si j'attends que tout le monde vienne, ça va être un problème. Je me suis mis à préparer le projet et j'ai effectué un déplacement à Lomela pour voir pour la prospection. Et c'est comme ça que je vais tomber sur les commissaires de district qui m'a encouragé pour l'initiative. Il a demandé à l'initiative du territoire de me donner un terrain. Alors, on nous a attribué un terrain sur lequel nous avons notre site aujourd'hui de l'université. Je suis retourné à Kinshasa, j'ai préparé les peu d'économie que j'avais, je suis retourné pour aller ouvrir l'université au mois d'octobre 2014.
Ah, c'est plutôt 2014, pas 2013. 2014.
Mais ça a commencé à 2013.
En 2013.
On a ouvert à 2014. Mais, madame, ce n'était pas si facile, parce que j'étais l'objet des attaques de la part, pas de la part de la population, de la part des hommes politiques de chez moi, de mon coin.
Pourquoi?
Les gens, dans leur meeting, ils ont dit que je venais, ce n'est pas pour ouvrir l'université, c'était pour faire... pour un début de politique, que je voulais briguer les postes de député chez nous. Les meetings partout, ils ont monté les gens contre moi, mais Dieu merci, je suis resté jusqu'à la fin. Ça n'a pas fait que ça comme incident. Je me suis retrouvé l'année dernière toujours en Europe. Je suis allé en Europe, à Genève et puis à Bruxelles. Les mêmes gens ont envoyé des messages en Europe, précisément à Bruxelles, pour dire ne recevez pas cet homme-là. Parce qu'il y avait l'intention de rassembler les enfants de chez nous là-bas pour leur parler de l'université. Ne les recevez pas parce que c'est notre ennemi. Là, je suis en train de parler à haute voix. Ils m'entendent, ils m'écoutent.
Alors là, c'est des guerres entre vous, originaire de Lomela. Vous avez, c'est vrai, vous avez connu beaucoup de difficultés, oui, d'obstacles, voilà, lorsque vous avez créé cette université. Oui. Mais pourquoi vous avez donné le nom de Laurent Désiré Kabila?
Madame, d'aucuns pensaient que... J'ai donné ce nom parce que je voulais devenir ministre, je voulais chercher de l'argent. Il n'en est pas question. Cet homme est venu en 1997. Moi, j'habitais l'avenue Bumba, presque en face de l'entrée chez le président Kabila, Monsieur Laurent Désiré Kabila. J'ai vu cet homme venir distribuer à manger à ses voisins qui nous appelaient à l'époque. J'ai vu beaucoup de choses qu'il a faites, et surtout dans ses slogans. Il a dit prenez-vous en charge, organisez-vous. Ça s'est resté dans mon fort intérieur, et tout le temps je ne fais que réfléchir par rapport à ça. Lomela est abandonné à de tous ces politiciens qui racontent n'importe quoi. Il n'y a même pas un seul projet. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, cet homme-là, moi-même je suis nationaliste, cet homme-là, il faut pérenniser son nom. Et je vais imiter à travers mon université, je vais pérenniser ses actions. C'est pour cela que j'ai donné ce nom de M. Laurent Désiré Kabila à cette université. Et les œuvres que nous sommes en train de réaliser sur le terrain, c'est en rapport justement avec ce qu'il a dit. Et je suis en train de voir les fruits. Je ne suis pas aidé par qui que ce soit. Pour le moment, je suis seul. J'ai acheté un véhicule.
Pour l'université?
Pour l'université, j'ai quitté Kinshasa par route qui quitte Chikapa, Kananga, Lodja, Lomela. Les véhicules, à l'heure où je vous parle, les véhicules se trouvent à Lomela. J'ai acheté une moto toute neuve aussi. Ça se trouve à Lomela.
Vous avez ouvert les portes de l'université l'année passée seulement, en octobre?
L'année passée seulement, oui.
Oui, en octobre. Est-ce qu'il y a déjà des étudiants?
Oui, j'ai 45 étudiants et j'estime que, comme début, c'est déjà largement suffisant.
Alors, c'est quelles études qui sont organisées dans cette université?
Nous organisons 4 facultés parce que nous avons réfléchi en disant que l'homme là, comme il est abandonné, l'homme là doit avoir des facultés qui peuvent être capables de l'accompagner dans son développement. C'est comme ça que nous avons choisi l'agronomie, la médecine vétérinaire, l'environnement et sciences de la santé. Voilà les quatre facultés qui fonctionnent actuellement.
Et donc, jusque là, vous n'avez que 45 étudiants.
45 répartis dans les quatre facultés.
Dans les quatre facultés.
Exact.
Les conditions d'études sont bonnes.
Les conditions d'études, pour le moment, nous n'avons pas de bâtiments propres, mais nous sommes locataires dans des bâtiments vraiment bien.
On fera un tour par là pour voir à quoi ça ressemble.
Je vous invite. Je vous invite. Même aujourd'hui, même ça, ma présence, vous serez vous-même étonné.
Merci, professeur. Ouais. Nous sommes à la fin de notre entretien. C'était un plaisir de vous recevoir. Mais avant de clore cette émission, je veux rappeler que vous appartenez à plusieurs associations, hein, quand
exact.
Même. Membre de la Société française des toxicologies analytiques.
Exact.
Ça, c'est votre domaine, en tout cas.
Exact.
Membre du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Exact.
Vous avez fait la pharmacie, c'est normal.
C'est normal, oui.
Président de la mutualité des Batetela de Lomela.
Exact.
Mobalo à Kinshasa.
Oui, oui, oui.
À Kinshasa, trésorier général adjoint de l'entente interprovinciale.
Oui. C'est une structure qui existe et au sein de laquelle j'occupe le poste de trésorier général adjoint.
Ben, ça ne fait pas trop...
Oh, mais j'ai le temps possible.
Président du comité provisoire de l'entente des communautés des bases de Lomela. Tout ça chez vous.
J'ai le temps pour ça.
Uh-huh.
Parce que j'aime vraiment l'unité du pays. J'aime que les gens soient ensemble, soient unis.
Alors, peut-être un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment, particulièrement ceux de Lomela qui vous suivent, professeur.
À mes chers frères et sœurs de Lomela, je suis très heureux d'avoir été invité à la Radio Capi pour parler un peu de vous, c'est pas de moi, mais de vous, de Lomela. Nous voulons que Lomela puisse aller de l'avant. Nous venons de parler de votre université autonome que vous aimez bien, et nous voulons que vraiment vous puissiez davantage vulgariser la pensée de M. Laurent Désiré Kabila pour que Lomela puisse sortir de son enclavement. Et c'est ça que nous poursuivons. Nous poursuivrons cela pour toujours.
Alors, un mot en tété là.
Analingo, la monyosha, moifula, manila kishasa, dimi, recteur, akinyo, konda oka José, la monyombola, danyo, tété mala, la lotumo, la kasatate, chopombaka, njila, awiwa, kimze, Laurent Désiré Kabila, kile tutumbe malo, oji, mané, wakatuchike, atu, losaka, lanyo.
Losaka.
Merci. Merci.
Tout ce que je connais, c'est Kema Fumbi.
Ah. Merci.
Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais le professeur Okondaoka Oneponga José. Il est professeur d'université, fondateur et recteur de l'université Laurent Désiré Kabila Lomela. Merci à Paul Badianama qui était à la technique, au micro Kevin Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programmes sous la fréquence de la paix.